بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Comme au programme, allons commencer l'étude du premier livre qui est الدواء الدواء de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a aussi un autre nom qui est الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي la réponse suffisante à celui qui a demandé le traitement ou alors la guérison الدواء الشافي Le remède, le traitement qui guérit. La réponse suffisante à celui qui a demandé le traitement qui guérit. Et c'est un livre de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et à la base, quelqu'un lui avait posé une question. Donc ça, c'est la réponse à une question que le cheikh a donnée. Et comme à l'accoutumée, nous allons parler brièvement de l'auteur qui est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc son nom c'est Shamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'd Ibn Hariz Al-Zar'i Al-Dimashqi et plus connu sous le nom de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et sa kunya, c'est Abu Abdillah. Il est né en 1691 de l'Égypte. Et parmi ses enseignants, c'est une biographie brève. Parmi ses enseignants, il y a le célèbre savant, l'imam, des muhaddithin Abu al-Hajjaj al-Mizzi rahimahullah de même que le célèbre savant de l'islam al-Imam Ibn Taymiyyata rahimahullah ces deux font partie des faits enseignants les plus célèbres et parmi ses élèves Nous avons l'imam du hadith, Abu Abdillah Muhammad ibn al-Hadi, ibn Abdil-Hadi, ibn Qudama al-Maqdisi. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de l'imam ibn al-Qudama, rahimahullah, c'est l'un des élèves de l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah. De même que Abu al-Fida, Ismail ibn Umar, ibn Kathir, imam al-Mufassirin. De même qu'Abu al-Faraj, Abdurrahman ibn Ahmad, al-Mulaqab ibn Rajab al-Hambali, rahimahullah. Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de l'auteur avant d'étudier un livre? Et pourquoi est-ce qu'il est important de rappeler qui sont ses enseignants, de même que ses élèves? Parce que ces éléments nous permettent d'avoir une information importante sur la personne. Parce que pour étudier de quelqu'un, il faut au préalable connaître son identité intellectuelle du point de vue islamique. Et c'est parce que les musulmans de nos jours ont délaissé ces bases que nous avons tous les problèmes que nous avons dans la communauté, ou alors ça fait partie des causes majeures. Des problèmes que nous avons aujourd'hui. Les gens ne prennent plus la peine de vérifier l'identité intellectuelle de celui qui se prononce en islam, qui parle des sujets relatifs à l'islam. Alors que parmi les bases qui avaient été établies par les pieux prédécesseurs, lorsque les troubles ont commencé à naître dans cette communauté, c'est la base selon laquelle on se doit de vérifier l'identité intellectuelle de celui qui parle en islam. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله ما كان الناس يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم وينظر إلى أهل البدع فلا يلتفت إليهم. dit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne posaient pas des questions sur les hommes, c'est-à-dire sur les hommes de science. Quand quelqu'un parlait d'Allah et de son messager, rapportait de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, on acceptait de lui directement. Falamma waqa'atil fitna. Lorsque la fitna se produit après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la fitna auquel il fait allusion ici, c'est celle de l'assassinat du troisième calife de l'islam, Othman radiallahu anhu. Parce qu'à ce moment, certaines personnes qui n'avaient pas été éduquées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient embrassé l'islam pour des raisons autres que ce pourquoi on se doit d'embrasser l'islam, avait commencé à s'aimer dans cette communauté les germes du mal. Et parce que ceux qui avaient été éduqués par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avaient reçu une bonne éducation basée sur les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont rendus compte. Et pour préserver la communauté, ils ont établi une règle. En se basant sur les enseignements du Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en disant sammu lana rijalakum, précisez-nous qui sont vos hommes, c'est-à-dire vos hommes de science. Et la parole est adressée aux savants ici. Précisez-nous qui sommes les hommes de science. فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ, afin qu'on regarde parmi les gens de la sunna qui sont les savants et qu'on prenne d'eux. Et qu'on regarde qui sont les adeptes de l'innovation et qu'on s'en écarte de leur chemin. Donc, quand ils ont dit سَمُّ لَنَا رِجَالَكُمْ, cela renvoie à ce à quoi j'ai fait allusion au départ. La détermination de l'identité intellectuelle de celui qui parle en islam. Parce qu'il n'appartient pas à n'importe qui de se prononcer en islam. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit « Lola al-isnadu, la qala man sha'a ma sha'a, al-isnadu min al-din, lola al-isnadu, la qala man sha'a ma sha'a. » La chaîne de transmission, la détermination de l'identité intellectuelle fait partie de la religion, fait partie intégrale de la religion. N'y eut cela, chacun allait dire ce qu'il veut. Mais comme pour prêter oreille, suivre ce qu'une personne dit en islam, il faut au préalable que son identité intellectuelle soit établie. Ce ne sont que les savants qui vont se prononcer. Parce que si on suit cette règle, il n'y aura que les savants et les étudiants en sciences qui vont parler. Et parce que ce sont ces derniers qui savent qu'en islam, on ne se doit de se prononcer que sur la base des preuves évidentes tirées du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à qui que ce soit de parler en religion sans que sa parole ne soit basée sur la science. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun » Interrogez les gens de science. Qui sont les gens de science? C'est ceux dont l'identité intellectuelle a été établie. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas. Donc on a deux catégories de personnes. Les savants et les non-savants. Et les savants ont leurs élèves. Et les non-savants ont des degrés différents. Hein? Certaines personnes sont plus ignorantes que les autres. Et certains savants sont plus savants que les autres. Mais il faut savoir que généralement, il y a deux catégories. Et que les étudiants en sciences font partie de la catégorie des savants parce qu'ils en savent quelque chose. Même si leur niveau de science n'a pas atteint le niveau de science des savants. Donc, du point de vue islamique, on ne se doit d'écouter que ces derniers. Ceux dont l'identité intellectuelle a été établie. Et ceci est la voie des pieux prédécesseurs. C'est pour cette raison que chaque fois que les savants veulent expliquer un livre, ils prennent la peine de parler de l'auteur afin d'établir son identité intellectuelle, afin que l'apprenant soit rassuré et sache qu'il est là en train d'étudier un livre d'un savant, d'une personne dont l'identité intellectuelle a été établie, d'une personne de qui on se doit de prendre du point de vue islamique. Parce que comme l'a dit l'imam Ibn Sirin, la science que nous détenons, notre religion, c'est l'ensemble des sciences que nous avons. Hier, il a prié que tu aies accompli, tu l'as appris quelque part. Et cette science, c'est-à-dire relative à la prière, c'est ce que tu as entendu d'une personne. C'est pour ça que l'imam Ibn Sirin a dit « Inna hadal ilma dinun ». Certes, cette science représente votre religion. Ce avec quoi vous adorez Allah, c'est ce que vous avez entendu de quelqu'un. Donc faites attention de qui vous prenez. Il faut que ce soit une personne de qui, du point de vue islamique, on se doit de prendre. Donc si on respectait ces bases, on n'allait pas avoir certains problèmes que nous avons aujourd'hui. Si chacun connaissait son rang et son niveau, on n'allait pas avoir les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il a été rapporté de l'imam Rabi'a ibn Abi Abdurrahman qu'un homme était entré chez lui, qui est l'un des enseignants de l'imam Malik. Il l'a trouvé en train de pleurer. Face à la roue, il l'a interrogé. Et ses pleurs se sont augmentés. Il lui a dit, un malheur t'a-t-il frappé? Il a dit non. Le malheur auquel tu fais allusion n'est pas celui qui m'a frappé, mais un malheur plus grand. On a interrogé les gens qui n'ont pas de science. On a posé des questions religieuses aux gens dont l'identité intellectuelle n'a pas été établie. Isma'u man natija qala fa dhahara fil islam amrun azim. Quelque chose de grandiose se produit en islam. Mujarrad su'al man la ilma lahu yuntij umur azima fil umma. Le simple fait qu'on adresse la parole, qu'on pose des questions aux personnes qui ne sont pas connues pour avoir étudié, engendre dans la communauté des dérapages graves. Fait naître des troubles. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention sur ce point. C'est un point important. Qala inna akthara man yufti hahuna wa hahuna ahaq bis-sijn min as-suraq. La grande majorité de ceux qui se prononcent en religion par-ci et par-là sont plus en droit d'être en prison que des voleurs. Lianna sarih ya akhi ya'khudhu min dunyak wa la yata'arrad li dinik. Parce que le voleur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'attaque dans le bas monde. Il ne te touche que dans ce qui est relatif à ce bas monde, au bien éphémère de ce bas monde. Quant à celui qui parle en religion sans science, qui n'est pas connu pour avoir étudié, il peut te voler ta foi. Il peut t'égarer. C'est pour ça qu'il est plus en droit d'être en prison que le voleur. Donc si nous évitons les voleurs, nous pensons que les voleurs ont droit d'être en prison et que nous écoutons ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié, c'est un paradoxe. Parce que le voleur est moins pire. L'impact du voleur sur nous est moins grave que l'impact de celui qui n'a pas étudié, de celui qui n'est pas connu pour avoir étudié. Et quand on parle des enseignants d'un auteur, c'est pour établir la chaîne de transmission. Ya ikhwa, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il peut bien former? Quel genre d'élève peut-il bien produire? Si c'est un autre, si ce n'est un autre cher ou à l'islam. C'est comme ça que ça a été. Parce que l'imam Ibn al-Qayyim aussi est un cher ou à l'islam. C'est un savant de l'islam qui a atteint ce degré. Et regardez qui sont ses élèves. Parmi ses élèves, on a qui? L'imam Ibn al-Kathir, rahimahullah. Al-Hafidh Ibn Rajab, rahimahullah. L'imam Ibn Qudama. فهذا الإسناد سلسلة الأئمة. Cette chaîne de transmission est donc constituée par une chaîne des imams. Donc, la bonne terre ne peut produire que la bonne végétation. Et la mauvaise terre ne peut produire que la mauvaise végétation. وقد قرر الله سبحانه وتعالى هذا الأصل في الكتاب الله سبحانه وتعالى أي تابليس برنسيب دان القرآن قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لا bonté ne produit que la bonne végétation par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bons savants ne produisent que les bons élèves, les bons étudiants, les bons éléments. والذي خبث. Quant à ceux qui n'ont pas étudié, quant aux mauvais savants, la yakhruju illa nakida. Ils ne peuvent produire que les mauvais produits, les mauvais éléments. Qui sème le trouble dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que les savants prennent souvent la peine d'étudier la biographie des auteurs, afin que l'apprenant soit rassuré. Et afin qu'il aspire au degré qu'a atteint l'auteur. Et c'est en suivant, en empruntant le même chemin que lui. Turidu an takuna kal imam ibn al-qayyim rahimahullah, ibhath an shaykhin ka shaykh al-islam ibn taymiyyah. Wa tatalmadh alayhi. Tu veux être comme l'imam ibn al-qayyim rahimahullah, alors cherche un enseignant comme l'imam ibn taymiyyah. Et tu auras le résultat bi'idhnillah. Les savants ont fait beaucoup d'éloges sur l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et compte tenu du temps, j'ai choisi une seule éloge de l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah. Bien qu'il y ait beaucoup d'éloges des anciens. Ou alors des imams plus anciens que l'imam al-Shawkani, rahimahullah. Qala l'imam al-Shawkani, rahimahullah. Kana mutaqayyidan bil adillati s-sahiha. Kana mutaqayyidan. Hein? C'est quelqu'un qui se suffisait, qui se canalisait bil adillati s-sahiha, par les dalils authentiques. Dans toutes ses positions. Dans toutes ses analyses, il canalisait son analyse, sa prise de position, son traitement d'une question par les tests authentiques. Il ne sortait pas des tests authentiques. Mu'jaban bil amal biha. Et il lui intéressait beaucoup d'œuvrer avec les textes authentiques. غير معول على الرأي هكذا علماء السنة. Il ne se détournait pas des textes de la révélation pour s'appuyer sur son simple raisonnement, sur le simple raisonnement. صادعاً بالحق. Hein? C'est quelqu'un qui disait la vérité et qui était droit. As-sad'a bil-haq, c'est le fait de dire la vérité n'importe quand et n'importe qui et à n'importe quand, n'importe où et à n'importe qui. Sadi'an bil-haq la yujabi fihi ahad. Pour ce qui est de la vérité, il n'était complaisant envers qui que ce soit. Voilà qui est Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a répondu à cette question que nous allons étudier. Et j'ose croire qu'à travers ces éléments que j'ai sélectionnés de sa biographie, chacun peut être rassuré qu'on va étudier là les propos d'un imam de la Sunna qui canalisait son raisonnement, ses analyses par les textes authentiques, qui ne se détournait jamais des textes authentiques pour s'appuyer sur son raisonnement. Et, bi'iznillah, nous allons commencer à lire le livre proprement dit. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الذي عرف بابن القيم الجوزية رضي الله عنه. C'est le rapporteur du livre. Il dit qu'on avait interrogé le cheikh, l'imam, le savantissime, al-mutqin. Al-mutqin, c'est celui qui a la maîtrise des sujets qu'il traite. Al-hafidh. Le savant, c'est un degré dans la science. Quand on a une certaine maîtrise des textes de la révélation, quand on mémorise le Coran et on mémorise un ensemble de hadiths, un ensemble considérable de hadiths, et maîtrise la science relative aux chaînes de transmission, qu'on atteint ce degré. An-naqid. Hein? C'est celui, an-naqid, c'est celui qui étudie les chaînes de transmission et qui décèle les problèmes qu'ont ces chaînes de transmission et dévoile les erreurs qui se trouvent dans les tests quand il y a des erreurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les nuqad. Ceux qui, à l'écoute d'une chaîne de transmission, disent ça, c'est un hadith baïf. À partir de sa connaissance des hommes qui constituent la chaîne de transmission. C'est un degré dans la science du hadith. On l'avait interrogé, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Sheikh al-Salih Abi Bakr, qui est connu sous le nom d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Voici la question qui lui avait été posée. « Ma taqulu s-sadatu al-ulama » أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية علم أنها إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيل في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين، أفتونا مأجورين، رحمكم الله. Voici donc la question qui fut posée et qui est à l'origine de la rédaction de ce livre. Que disent les maîtres, les savants, les guides de la religion? Qu'Allah les agrée tous. D'un homme souffrant d'un péché dont il sait que s'il persiste à le commettre, nuira sa vie ici-bas ainsi que celle de l'au-delà. Cet homme, cherchant pourtant par tous les moyens à se débarrasser de ce mal, mais le désir ardent de commettre ce péché ne cesse d'augmenter, de s'accroître. Quelle est donc la solution pour s'en débarrasser d'un tel péché? Et par quels moyens y parvenir? Qu'Allah fasse miséricorde à quiconque apporte son aide à une personne éprouvée. En effet, Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Et c'est une partie d'un hadith authentique qu'il a cité, qui a été rapporté par Muslim. Renseignez-nous, qu'Allah vous récompense. Voilà les questions qui avaient été posées à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, par un homme qui était sous l'emprise d'un péché dont il n'arrivait de s'en débarrasser. Qala rajul ibtuliya bi baliya, un homme qui a été éprouvé par une calamité. Wa min fiqhi hadha ar-rajul annahu adraka an al-ma'siyah baliya. Et parmi les choses qui relèvent de l'immense science de cette personne qui a posé la question, c'est qu'il avait compris que le péché est une calamité. Fasamaha baliya. Il l'a qualifié le péché comme étant une calamité. وعلم انها ان استمر به افسدت دنياه واخرته. Et il avait également su que s'il ne se débarrasse pas, s'il ne sort pas de cette situation, s'il ne sort pas de l'emprise de ce péché ruinera sa vie ici-bas, de même que celle de l'au-delà. فالمعاصي تفسد الدنيا والآخرة. Les péchés ruinent la vie ici-bas ainsi que celle de l'au-delà. قال وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق. Il a également donné un élément important. Il s'agit là de quelqu'un qui a essayé par tous les moyens de sortir de cette situation. Pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'en réalité, quand on médite sur la question de cet homme, on se rend compte qu'il est en train d'exposer là la situation de la grande majorité des musulmans, si ce n'est la situation de tous les musulmans de nos jours. Qui est celui-là qui ne connaît pas la conséquence du péché? Certains parmi ceux qui sont passés avant nous ont péché et Allah subhanahu wa ta'ala sur le champ les a transformés en singes et en porcs. Et le jour de la résurrection, ils seront châtiés. Les méfaits du péché ne sont pas méconnus chez les musulmans. Et le musulman conscient, lorsqu'il se rend compte qu'il est sous l'emprise d'un péché, il est inquiet et se bat pour sortir de cette situation. Et pourquoi est-ce que nous devons tous de méditer sur cette question? Parce que de nos jours, avec le développement, personne n'est à l'abri. Combien de personnes à travers les réseaux sociaux ont perdu leur foi, ont perdu leur piété? À travers les chaînes de télévision, je vais prendre un exemple ici. Combien de femmes musulmanes sont sous l'emprise des séries? La chaîne Novelas, vous savez bien ce que c'est. Combien d'hommes sont incapables aujourd'hui de sortir sous l'emprise de ces séries? Et combien, comme nous l'avons dit, se sont vus égarés par le biais de ces groupes, des réseaux sociaux. Nous sommes entre les maladies liées aux patients et les maladies liées aux ambiguïtés. Si nous ne sommes pas sous l'emprise des deux, et ces appareils que nous avons en main favorisent cela, c'est-à-dire le fait d'être sous l'emprise des péchés. C'est pour ça que le savantissime Abdul Muhsin Abbad, hafidhahullah, a rédigé un conseil à la communauté que vous pouvez trouver dans son site. Qala ihdharu ama al-basar wal-basira bihadhi al-jawalat. O kalaman qarib min hadha. Le titre de ce conseil, c'est « Prenez garde de la perte de vue, de même que celle de la clairvoyance à travers les téléphones. » La grande majorité de ceux qui portaient des lunettes comme moi aujourd'hui, le font parce que leur vue a été abîmée par les écrans. Ça, c'est pour ce qui est de la vue. D'autres ont même perdu la vue complètement. Mais ce qui fait le plus mal et qui fait le plus peur, perdre la vue, c'est déjà grave. Mais ce qui est pire, c'est que d'autres ont perdu la vue après avoir perdu la clairvoyance, la guidée, la foi, à travers ce sur quoi ils ont passé des mois, voire des années à regarder parmi les images illicites. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dit aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté. ثم قال ذلك أزكى لهم. Cela est plus pour eux. C'est-à-dire que, en adoptant cette attitude, l'adoption de cette attitude les purifie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la purification de l'âme est un devoir individuel et un objectif que chacun d'entre nous se doit d'atteindre par tous les moyens. Parce qu'une âme corrompue n'échappera pas au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la purification de l'âme, a juré combien de fois?
11 fois. Alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à la base est vérité. Allah n'a pas besoin de jurer pour qu'on croit en sa parole, en la véracité de sa parole. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala jure, c'est pour autre chose, parce que sa parole est vérité pour nous. N'avons pas de doute sur la parole d'Allah. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala va jusqu'à jurer, c'est pour autre chose, c'est pour attirer l'attention sur l'importance de ce pourquoi il a juré. Et s'il jure une fois, deux fois, s'il va jusqu'à trois fois, quatre fois, ne s'arrête pas à cinq fois, va au-delà de six fois, jusqu'à onze fois. قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم جاء جواب القسم. Tout ce qui a précédé قد أصلها من زكاها, c'est ce qu'on appelle القسم. Allah a juré plusieurs fois pour attirer l'attention sur l'importance de ce pourquoi il a dû jurer. Et à la fin, il a dit, « Qad aflaha man zakkaha. » Certes, a réussi celui qui a purifié son âme. Celui qui a réussi à purifier son âme. Certes, a réussi ces derniers. « Wa qad khaba man dassaha. » Et certes, a péri. C'est lui qui l'a corrompu. Pour échapper au châtiment d'Allah le jour de la résurrection, au feu de l'enfer, il faut purifier son âme. Il faut travailler constamment dans ce sens. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a orientés vers cette voie. En disant, au cours des mu'minin, dis aux croyants de baisser leur regard. Dis aux croyants de faire attention à ce sur quoi ils posent le regard. Parce que nos membres, les yeux là, ce sont des fenêtres qui permettent à tout ce qu'on voit d'atteindre le cœur. Si c'est quelque chose de bien, il se peut que cela contribue à la purification de notre cœur. Et si c'est quelque chose de mal, il se peut que cela contribue à la corruption de notre cœur. Donc, nous devons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de méditer sur cette question, parce que la méditation de cette question nous donne un renseignement important. L'immense besoin que nous avons vis-à-vis de la réponse donnée par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Parce qu'il s'agit là d'un problème qui est le nôtre. Et peut-être que nous souffrons même plus que celui qui a posé cette question. Parce qu'à son époque, il n'existait pas certaines voies de mal qui existent aujourd'hui. Certains canaux du mal qui existent aujourd'hui. Et il se peut que de nos jours, les musulmans soient plongés dans les péchés qui sont plus graves que le péché dans lequel il était plongé. Et malgré ça, vous avez suivi sa question. Et l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Parce qu'à la fin du livre, on va se rendre compte, on va comprendre de quoi souffrait cet homme. Il souffrait d'un amour excessif et illicite. Il avait aimé illicitement une femme. Une femme qui ne lui était pas licite et n'arrivait pas à sortir de son cœur cet amour illicite. Qu'en est-il donc de ceux qui, à force de poser les yeux sur les images illicites, ont commencé à aimer, voire même être sous l'emprise de ces images. Non, ce sont des vérités, nous devons nous dire ces vérités. Et parmi les conséquences de ce laxisme dans la préservation du regard, c'est qu'il arrive souvent que même des imams balancent des images indécentes, prétendant que ce qui les intéresse, c'est le message qu'on a voulu transmettre à travers cette image, alors que ce qui atteint les cœurs, avant même le message qu'il veut passer, et grâce à le message qu'il veut transmettre. Et parfois, ce sont même des images animées, ce sont des vidéos. Parfois, ce sont des femmes mal habillées, kasiyat, ariyat, qui sont habillées, mais déshabillées, mais nues. Parce que l'habillement du point de vue islamique est une chose. Et l'habillement, selon la conception des hommes aujourd'hui, en est une autre. Or, il se peut que l'habillement, selon la conception contemporaine, soit, du point de vue islamique, considéré comme la nudité. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète sallam a dit « Sinfani min ahli nar, lam arahu mabad, nisa'un, kasiyatun, ariyat. » Là, c'était deux catégories de personnes qu'il n'avait pas vues, c'est-à-dire qui n'existaient pas à son époque et qui allaient exister après lui. Et parmi ces catégories-là, c'était des femmes vêtues, mais nues. Des femmes vêtues, mais nues. Les savants ont dit que ce sont des femmes qui mettent des habits, qui définissent leur forme. Les habits qui définissent leur forme. Ou alors des habits transparents, qui attirent les regards. Donc, du point de vue islamique, un habillement qui ne respecte pas les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala par son messager ne relève pas de l'habit. Ce n'est pas un vêtement. Il se peut qu'on marche alors qu'on est nu. Donc, il se peut qu'on publie une vidéo alors qu'on a publié du point de vue islamique la vidéo d'une femme nue. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا. Ceux qui veulent que la turpitude se répande entre les croyants. Ça c'est seulement ceux qui veulent. Qu'en est-il de ceux qui répandent? C'est pour ça qu'on a besoin de science. Parce que sans science, on peut se détruire sans s'en rendre compte. On peut détruire sa foi sans s'en rendre compte. On peut même être sous l'emprise d'un péché sans même s'en rendre compte. La différence entre certains musulmans aujourd'hui, certains croyants et cet homme, c'est que c'était un homme conscient de sa situation et qui se battait pour sortir de cette situation. Et parmi les choses qui attestent de sa sincérité, c'est qu'il a adopté la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Après s'être battu par toutes les voies possibles pouvant lui permettre de sortir sous l'emprise de ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté la voie tracée par Allah. Il a interrogé les gens des sciences. Et vous avez suivi ce qu'il a demandé à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Qala, ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم. Il a été précis dans sa question. Que disent les maîtres, les savants, les guides dans la religion? Il s'est orienté vers les hommes de science et a posé la question que vous avez suivie, qui est notre question à nous tous. Je veux dire, dans sa question, il a exposer une situation qui s'avère être la nôtre. Et, Inch'Allah, lors des prochaines assises, nous allons commencer à lire la réponse de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en apportant quelques annotations Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de nos péchés, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Hada wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.